chers auditeurs, au micro Paul Ouzimeyerson qui a le plaisir de vous présenter Chronique pour la paix, la nouvelle émission sur Radio Shalom. Aujourd'hui, je vais interviewer Madame le rabbin Nava Chefetz, qui est membre d'une organisation israélienne très intéressante, celle des rabbins pour les droits humains, en France on dirait pour les droits de l'homme. Je rappelle que Nava Chefetz est la directrice pédagogique de cette organisation, qu'elle a dirigé des dizaines de programmes en Israël et à l'étranger. Elle a notamment développé un programme visant à enseigner les droits humains selon les perspectives juives et le point de vue international. Alors, bonjour Nava Chefetz, vous êtes là ?
Bonjour Osé.
Bonjour, bonjour. Alors Madame le Rabbin, je vais vous poser la première question. Dites-nous exactement ce qu'est votre organisation, Rabbin pour les droits humains. Quels sont ses objectifs ? Quand et où intervient-elle ? Qui sont ses membres ? Qui la finance ? Et vous êtes-vous nombreux ? On veut tout savoir.
Donc, Rabbin pour les droits humains a été fondé en 1988, juste quelques mois après la première intifada, le premier soulèvement des Palestiniens dans les territoires occupés, afin d'émettre une voix juive humaniste en clamant que ce qui se passe dans les territoires occupés ne coïncide pas avec la tradition juive, avec l'éthique juive, avec la morale juive. Dans notre organisation, nous avons environ 140 rabbins qui sont membres de l'organisation.
De toute obédience.
De toutes les dénominations juives, c'est-à-dire libéraux, conservateurs,
orthodoxes.
Et même, nous avons un phénomène en Israël qui s'appelle les rabbins laïcs. Les rabbins israéliens laïcs. Mmh. Nous opérons surtout dans trois domaines. Bien sûr, le domaine qui prédomine, c'est l'éducation. L'éducation dans les centres pédagogiques avant l'armée, avant la mobilisation à Tzahal. Mmh. Ça s'appelle les académies prémilitaires, les mechinot.
Oui.
Nous opérons dans les universités israéliennes et on enseigne en fait les droits humains à partir de textes juifs et des textes internationaux.
D'accord, à la fois la tradition et le droit, les
droits humains, bien sûr. Et à partir des textes juifs, à partir des textes sionistes, à partir des textes internationaux. Nous prenons ces jeunes aussi pour voir ce qui se passe sur le terrain. Donc, si on parle de droits humains, d'égalité, de justice, on les emmène par exemple à Hebron. À Hebron, ils rencontrent l'occupation, mais ils rencontrent aussi les colons. Ils rencontrent les juifs qui vivent à Hebron. Et ils rencontrent aussi les Palestiniens, afin d'avoir toutes les voix, et à partir de ces voix, nous pouvons les amener à avoir une opinion, à se faire une opinion. Mais c'est basé sur une connaissance, et pas seulement sur les médias, sur ce qu'on dit à la télé, etc. Donc
d'accord.
ça c'est une part de notre travail. Notre part, c'est nous avons trois projets dans les territoires occupés. Premièrement, c'est la cueillette des olives, parce que les Palestiniens n'ont pas le droit de rentrer dans leurs terres privées, étant donné que les terres privées sont à proximité des avant-postes et des colonies. Et donc, ils doivent recevoir...
Quand vous dites les avant-postes, vous ne parlez pas de l'armée, vous parlez des implantations juives illégales.
Tout est illégal. D'après la loi internationale, il n'y a pas de colonie qui est légale.
Oui, mais celles-là, elles sont particulièrement illégales. C'est ça de vous parler.
Tout est illégal, de nouveau. D'après la loi internationale, toutes les colonies qui ont été créées en Cisjordanie sont illégales. Et bien sûr aussi les avant-postes qui sont à proximité des colonies, étant donné que ces avant-postes ne sont pas viables s'ils n'ont pas les ressources d'une colonie. L'électricité, l'eau, l'approvisionnement de nourriture, etc. Donc, mais le problème des avant-postes, et c'est pour cela que je dis que on peut être contre les colonies, on peut être pour les colonies, nous on ne s'occupe pas de ça. Nous, ce qu'on s'occupe, c'est du fait que des colons juifs descendent dans les terres des Palestiniens, dans les champs d'oliviers, ils brûlent des arbres, ils dessinent les arbres. Et c'est là où nous, on est sur place afin de veiller à ce que, premièrement, les fermiers puissent avoir accès à leurs terres, d'une part, et deuxièmement, qu'ils puissent cueillir toutes les olives. Il y a aussi beaucoup de vols, le vol des olives, parce que ces jeunes, c'est des jeunes délinquants qui vivent dans les avant-postes, sur les collines, et ils descendent la nuit et ils volent les olives. Bien sûr, ce sont des jeunes qui sont religieux, mais pour eux, la religion, elle s'arrête où on peut brûler des arbres, où on peut heurter des êtres humains. Ça, c'est permis d'après leur judaïsme. Pour nous, c'est justement... C'est ça la voie que nous, on veut émettre, c'est que c'est contraire à l'éthique juive, c'est contraire à la morale juive, de quel côté qu'on regarde. Maintenant, ces jeunes sont soutenus par des rabbins extrémistes qui vivent dans les territoires. Ce sont ces mêmes rabbins qui ont donné légitimité à assassiner un premier ministre, je parle de Yitzhak Rabin. Oui. C'est les mêmes rabbins qui ont donné l'inspiration à Baruch Goldstein de rentrer dans le caveau des patriarches et d'assassiner 29 Palestiniens qui priaient, musulmans qui priaient à l'intérieur. Ce sont des rabbins très extrémistes qui, pour eux, l'État d'Israël, c'est un fait éphémère. Pour eux, ce qu'ils veulent voir, c'est la reconstitution du royaume de David avec le temple à Jérusalem.
Rabbi.
Et ce sont en fait des gens qui opèrent et qui travaillent contre l'État d'Israël. Mais nous, on est là pour veiller à ce que les Palestiniens, les fermiers palestiniens puissent cueillir leurs olives et avoir leur gagne-pain pendant l'année.
Mais Navah Hefetz, la violence de ces habitants juifs de Cisjordanie, on les nomme souvent jeunesse des collines, est-ce qu'elle ne s'exerce pas également, pas seulement contre les Palestiniens, mais aussi contre l'armée et la police israélienne ? Est-ce que vous êtes protégé par Tzahal quand vous descendez faire de l'aide et du soutien aux populations civiles palestiniennes ?
Donc, nous, on travaille, premièrement, avant d'arriver sur le terrain, nous avons toute une liste qu'on reçoit des fermiers palestiniens où il faut les aider. Et quand on arrive souvent sur place, l'armée arrive avec un acte d'expulsion. Vous n'avez pas le droit d'être ici.
Vous n'avez pas l'autorisation de rentrer, d'abord ?
Non.
Vous n'avez pas l'autorisation de Tzahal avant de rentrer dans les territoires en Judée et Samarie ? Vous ne demandez pas, vous le citez ?
Alors, si, on a, mais ce qui se passe, c'est que souvent, il n'y a pas de coopération entre les Palestiniens et l'armée israélienne. C'est-à-dire les systèmes de sécurité palestiniens et le système de sécurité israélien. Souvent, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, l'armée, elle arrive. On ne rentre pas dans les zones A. On est seulement dans les zones C et B.
D'accord.
C'est-à-dire, ce sont des zones qui sont sous contrôle militaire israélien. Maintenant, le problème, c'est que l'armée ne veut pas avoir affaire avec ces jeunes délinquants des collines. Et ils savent que nous, on préserve la loi. Et quand l'armée vient et nous dit, vous pouvez pas être ici, on va pas discuter. On va s'en aller. Sans essayer de les convaincre que c'est pas illégal ce qu'ils font. Mais à un certain moment, on a décidé qu'on n'allait pas accepter ce que l'armée nous dit. Et par exemple, l'année dernière, quand on est arrivé pour planter des arbres dans un village au nord de la Samarie, donc au nord des territoires, l'armée est arrivée, elle a voulu qu'on s'en aille. On était presque 200 personnes et ils n'ont pas réussi à nous chasser. Donc nous, on a compris. Plus on sera sur le terrain, plus ils auront du mal à nous chasser et à ne pas nous laisser vraiment prendre soin des fermiers palestiniens et en fait servir de leur protection. Parce qu'ils sont constamment harcelés par ces jeunes délinquants des collines.
Il me semble cependant qu'il y a eu pas mal d'incidents entre ces jeunes des collines et l'armée. Il y a eu des soldats qui ont été blessés, il y a eu des voitures qui ont été sabotées. Est-ce que je me trompe ?
Non, pas du tout. Et c'est là où l'armée commence à rentrer en action. C'est pas si nous on est là-bas ou on n'est pas là-bas. Mais c'est quand les jeunes des collines, les délinquants des collines attaquent les soldats, c'est là où l'armée elle répond violemment.
Mais pourquoi ils attaquent les soldats ?
C'est pas quand nous on arrive là-bas.
Pourquoi ils attaquent les soldats ?
Écoutez, il faut comprendre. Ces jeunes, ce ne sont pas des mauvaises herbes dans un champ. Il y a actuellement environ 145 avant-postes ils ont été construits près des colonies. C'est une stratégie. Donc, on peut pas venir contre les colons dire ah mais c'est vous qui nous avez attaqué. Non, ce sont ces jeunes des collines qui descendent. Mais ces jeunes des collines sont soutenus par les colonies et par les rabbins et pas par l'État. Par la politique du gouvernement israélien, parce qu'on aurait pu très facilement évacuer ces avant-postes et en disant ça suffit, on veut pas de cette violence, parce que c'est vraiment ces gens-là qui sèment la pagaille, c'est eux qui veulent, ils sont très violents. D'ailleurs, vous devez les voir quand ils descendent des collines.
Comment vous expliquez que cette petite partie, parce que c'est quand même une petite partie des habitants des 400 000 juifs qui habitent en Cisjordanie, en Judée et Samarie, comment vous expliquez leur violence ? Comment vous expliquez que cette violence est récurrente ? Parce que là, vous parlez des olives, mais il y a eu des choses plus graves. Il y a eu des lancers de cocktails Molotov qui ont tué des gens, il y a eu des choses comme ça. Donc d'où ça sort, ça ? Cette violence vraiment extrémiste ?
De l'éducation. Tout d'abord, ce sont des jeunes qui ont quitté n'importe quel système éducatif dans lequel ils étaient. Et en fait, c'est des délinquants, c'est des anarchistes. Ils ont été recrutés par ces rabbins extrémistes qui leur donnent un sens à la vie. Ces rabbins leur disent « Vous sauvez le peuple juif. Vous sauvez la terre du peuple juif. » Cette terre nous appartient, elle nous a toujours appartenu et c'est de là qu'ils reçoivent leur légitimité. C'est-à-dire, si la première attaque, on les aurait arrêtés, ça n'aurait pas continué. Mais ça continue parce qu'ils reçoivent, ils ont un dos, ils reçoivent, ils sont financés. On ne peut pas vivre sur une colline déserte ou même on peut pas, on a besoin d'avoir de l'électricité, on a besoin d'avoir de l'eau, s'approvisionner. Ce sont des jeunes des fois de 14, 15, 16 ans qui sont là-bas. Mais ils sont persuadés qu'ils font ça pour le qu'il sauve actuellement. Il sauve le peuple juif.
Une dernière question, Nabachefet, parce que le temps passe vite, on a seulement 15 minutes. Est-ce que la violation des droits humains, la violence en Judée, Samarie, en Cisjordanie, est ressentie par les citoyens d'Israël? Est-ce que ça fait l'objet d'un débat à la Knesset, au Parlement, dans la société, au gouvernement surtout? Est-ce que vous êtes mêlé à ce débat?
À la Knesset, oui. J'étais il y a presque un mois donner un rapport et un témoignage à la Knesset. C'était surtout les membres de Meretz qui ont organisé cette conférence à la Knesset. Le gouvernement, pas tellement. C'est seulement, je pense, ces deux dernières semaines qu'on commence à s'intéresser à ce qui se passe. Mais de nouveau, il n'y a pas un débat dans la société israélienne. Il faut juste, je termine en disant que 99% de la population israélienne n'a jamais mis les pieds dans les territoires occupés. Et donc, ils ne s'intéressent pas. Pour eux, c'est derrière les montagnes noires. Donc, on ne s'intéresse pas. Donc, c'est contre un Palestinien. Du moment où on attaque un soldat israélien, c'est là où on commence à se poser les questions.
Très bien.
Mais tant que c'est envers les Palestiniens, bon, c'est les Palestiniens sont tous des terroristes de toute manière. C'est ça plus ou moins, c'est grosso modo, oui, c'est un petit peu ça, la tendance qu'il y a aujourd'hui dans la société israélienne. Et ça ne suscite pas un débat, pas du tout.
Très bien. Écoutez, Nabachefet, on en aura l'occasion encore d'en parler. Je vous remercie d'avoir participé à notre émission et on vous dit à bientôt, Madame le Rabbin. Voilà.
À
shalom,
bientôt.
Shalom.
Au revoir.
Alors, bonne semaine à tous et à toutes. C'était Paul Ouzimi, Yerson à l'antenne, avec Chronique pour la paix sur Radio Shalom.